Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez RFI, Radio France Internationale. Il est 16h en temps universel, 18h à Gaza et Tel Aviv.
Le journal
en français facile.
Diane Berger.
À la une ce soir, la situation au Proche-Orient. Trois nouveaux otages du Hamas doivent être libérés demain. Le mouvement a donné leur nom ce matin. Pendant ce temps, à Gaza, les besoins immenses en aide humanitaire. La situation des hôpitaux est catastrophique. Les bâtiments ravagés par 15 mois de guerre. Vous allez l'entendre, dans ces conditions, impossible de compter tous les morts, notamment les victimes de la faim ou du manque de soins. Nous ferons aussi dans ce journal le point sur l'enquête aux États-Unis après le crash d'un avion et d'un hélicoptère à Washington. Le manque de contrôleurs aériens pourrait être à l'origine du drame. Et puis à Budapest, le gouvernement de Viktor Orban rêve de bâtir la tour la plus haute d'Europe à 500 mètres de haut. Son opposition ne veut pas en entendre parler. Le maire de la capitale hongroise fait tout pour empêcher le projet. Le Hamas a donné le nom de trois otages israéliens qui seront libérés demain. Il s'agit du franco-israélien Ofer Calderon, l'israélo-américain Kif Siegel et Yarden Bibas, un israélien dont l'épouse et leurs deux fils sont toujours à Gaza. Leur sort très incertain, le cas de cette famille est devenu un symbole en Israël en raison de l'âge des deux enfants, 4 ans et moins d'un an au moment de leur capture le 7 octobre. Dans ce contexte de trêve, c'est un lieu important qui doit rouvrir très bientôt à la frontière entre Gaza et l'Égypte, le point de passage de Rafah. L'Union européenne va déployer une mission d'assistance sur place, une étape cruciale pour l'entrée de l'aide humanitaire et l'évacuation des blessés. Car après 15 mois de guerre, le système de soins de Gaza est à terre. Cela risque d'augmenter encore le nombre de morts selon Maïm Koureichi, une chirurgienne qui opérait dans l'enclave il y a quelques mois encore.
On sait que le décompte est largement sous-estimé pour les morts directes, mais on ne compte même pas ceux qui sont morts de la faim ou les morts avant la naissance par manque de nourriture et de soins. Les problèmes congénitaux qui en résulteront pour ces enfants, ils en paieront le prix pour le reste de leur vie. Le décompte n'inclut pas non plus les personnes qui sont mortes de maladies qui auraient tout à fait pu être traitées dans le système de soins palestinien tel qu'il existait avant la guerre. L'hôpital Nasser avait une unité de dialyse. Quand j'y étais il y a quelques mois, elle accueillait 30% de patients en moins qu'avant la guerre. Est-ce que les bilans prennent en compte les morts qui surviennent des semaines après une hospitalisation pour septicémie? Nous n'avons qu'une infime idée de ce bilan humain, que ce soit les morts ou les souffrances, et je ne crois pas que l'on saura jamais à quel point cela fut terrible.
Maïm Koureichi avec Abla Jounaïdi. Un sommet extraordinaire de la CADC, la Communauté de Développement d'Afrique australe aujourd'hui. Les chefs d'État se réunissent au Zimbabwe pour parler de la situation dans l'est de la République démocratique du Congo. Le président du Tchad salue quant à lui le départ définitif et complet de l'armée française après la cérémonie organisée hier jeudi pour rendre la base de N'Djamena à l'armée tchadienne. Le chef d'État a précisé qu'il ne met pas fin à toutes les relations avec la France, mais uniquement à la coopération dans le domaine militaire. Le Tchad était le dernier pays du Sahel où les troupes françaises étaient présentes. À Washington, des opérations de recherche qui continuent et des questions encore sans réponse. Après le crash mercredi soir d'un avion de ligne et d'un hélicoptère, aucun passager n'a survécu. L'accident a donc fait 67 morts. Les enquêteurs tentent maintenant de comprendre les causes de cette catastrophe. Le président des États-Unis, Donald Trump, accuse les programmes de promotion de la diversité soutenus par les démocrates. Bonjour Nicolas Rocca.
Bonjour Diane.
Un rapport interne de l'administration fédérale de l'aviation pointe, lui, des problèmes liés au manque de personnel.
Oui, ce document consulté par le New York Times assure que les effectifs de la tour de contrôle étaient inhabituels pour l'heure de la journée et le volume du trafic. Le contrôleur aérien chargé des hélicoptères s'occupait aussi des avions qui décollaient ou atterrissaient, un travail normalement effectué par deux personnes. Une information importante alors que l'hélicoptère avait nettement dévié de sa trajectoire et n'a pas été suffisamment bien dirigé pour éviter l'avion. Des enregistrements permettent permettent d'entendre clairement le contrôleur demander à l'hélicoptère de passer derrière l'appareil quelques secondes avant l'explosion. Les problèmes de sous-effectifs dans les tours de contrôle aérienne américaine semblent structurels. 25 contrôleurs aériens étaient affectés à la tour de l'aéroport Ronald Reagan où s'est déroulée la catastrophe, alors que 30 personnes sont recommandées par les autorités et les syndicats. Les deux boîtes noires, vous l'avez dit, ont été retrouvées et sont en train d'être analysées. L'agence américaine chargée de la sécurité des transports doit publier un rapport dans les 30 prochains jours.
Merci beaucoup Nicolas Roca pour ces explications. Des nouvelles de la guerre en Ukraine maintenant. Kiev affirme que les troupes nord-coréennes n'ont pas été vues depuis 3 semaines dans la région de Koursk. Selon l'armée ukrainienne, ces soldats ont vraisemblablement été retirés du front en raison des lourdes pertes qu'ils ont subies. Un débat explosif en cours au Parlement allemand. Les députés travaillent sur une proposition de loi sur l'immigration. Le texte pourrait limiter le regroupement familial, c'est-à-dire le système qui permet à une personne étrangère de faire venir ses proches dans le même pays que lui. Afin de faire passer cette réforme, les conservateurs pourraient avoir besoin des voix du parti d'extrême droite AfD. Tout un symbole à l'approche des élections législatives prévues dans 3 semaines maintenant. On va en Hongrie maintenant. La levée de boucliers contre un grand projet du gouvernement de Viktor Orban. Le Premier ministre rêve en effet d'un quartier avec des tours immenses au nord-est de la capitale. Un chantier nommé le Grand Budapest, aussi surnommé par les habitants le Mini Dubaï. Le terrain vient d'être vendu à un promoteur immobilier des Émirats Arabes Unis et des hommes d'affaires proches du pouvoir participent au projet. De quoi susciter beaucoup d'inquiétudes au sein de l'opposition. À Budapest, Florence Labruyère.
C'est un projet grandiose du gouvernement Orban. Implanter un nouveau quartier d'affaires à Budapest, un quartier dominé par des tours, des hôtels et magasins de luxe, et un gratte-ciel de 500 mètres de haut, qui serait la tour la plus haute d'Europe. Le gouvernement a signé un contrat avec un promoteur de Dubaï, le milliardaire Mohamed Al-Abbar, connu pour avoir construit la tour la plus haute du monde. Ce nouveau quartier va booster l'économie et créer des milliers d'emplois, argumente le gouvernement. Mais ses détracteurs déplorent une débauche de luxe qui va tirer les prix de l'immobilier vers le haut et profiter aux oligarques proches du pouvoir. Le maire écologiste de Budapest, Gergely Corracsony, est vent debout contre ce projet qui risque selon lui de défigurer la capitale hongroise. Le maire a décidé d'exercer son droit de préemption sur le terrain et il présente un contre-projet avec des espaces verts et des logements accessibles aux Budapestois. C'est donc un véritable bras de fer qui s'annonce entre la ville de Budapest et le gouvernement de Viktor Orban. Florence Labruyère, Budapest, RFI.
Mauvaise nouvelle pour l'environnement en Indonésie, la déforestation a augmenté en 2024. Les activités humaines ont causé la destruction de 4000 hectares de végétation de plus qu'en 2023, selon une étude de l'ONG Auriga Nusantara. Pour défendre la biodiversité, une mesure radicale au Portugal, le Parlement du pays vient de voter un moratoire qui interdit l'exploitation minière des grands fonds sous-marins dans ses eaux territoriales. Cela jusqu'en 2050, c'est une décision inédite en Europe. Les fonds marins sont à la fois riches en métaux rares, utiles pour les batteries des véhicules électriques, mais ils comptent aussi un grand nombre d'espèces rares et souvent mal connues par les scientifiques qui demandent donc leur préservation. En France maintenant, la tombe de Jean-Marie Le Pen a été saccagée, probablement à coups de masse dans la nuit de jeudi à vendredi. Cela dans le cimetière de la Trinité-sur-Mer, dans l'ouest du pays. Jean-Marie Le Pen était une figure historique de l'extrême droite française. Il est mort au début du mois de janvier. Le ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, dénonce un acte qu'il qualifie d'abjection absolue. Et puis, c'était tout un symbole des Jeux Olympiques de Paris, la vasque avec son ballon gonflé à l'hélium de 30 mètres, allumé chaque soir pendant la compétition. Emmanuel Macron annonce que cette vasque va être réinstallée chaque été au parc des Tuileries, dans le cœur de la capitale française. Et cela jusqu'aux Jeux Olympiques de Los Angeles, qui sont prévus, je le rappelle, en 2028. Il est maintenant quasiment 17h10 ici dans nos studios à Paris. 16h10 en temps universel, c'est la fin de ce journal en français facile et vous pouvez évidemment le retrouver avec sa retranscription sur notre site internet dédié françaisfacile.rfi.fr. Merci beaucoup d'écouter la radio du monde.